Assalamu alaikum wa rahmatullah, nous nous retrouvons pour le quatrième épisode de la série Portrait du mois d'Éthique Média, le média destiné aux jeunes de la communauté, où je vais à la rencontre de différents acteurs de la Oumma afin de les interroger sur leur parcours, leurs aspirations et surtout leur vision de la prédication. Et aujourd'hui, c'est Thomas Sibyl que nous avons l'honneur d'interviewer. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Donc vous êtes l'homme qui est à l'origine du projet de la librairie El Beydina, vous êtes donc par là libraire de profession, un grand féru de lecture également, un sujet dont vous traitez souvent sur votre chaîne YouTube El Beydina Media, où vous présentez des livres ou exposez plusieurs idées, mais également sur d'autres réseaux. Et on voit à travers votre contenu que pour vous, la profondeur, ça doit être un moteur finalement de la lecture, un moteur essentiel, qu'il s'agisse d'ouvrages spirituels, historiques, théologiques, etc. Et donc le panel d'ouvrages proposés par la librairie El Beydina est très large, mashallah. Et donc, à travers cette variété, vous clarifiez que, dans vos vidéos, vous clarifiez les thèmes essentiels finalement à la communauté qui poussent à la réflexion. Vous faites parfois appel à des invités pour ça, comme Sofiane Kebir ou encore Inès Chakal. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter à nous, présenter un peu le magnifique projet qu'est la librairie El Beydina, mashallah, et pourquoi pas ce que vous envisagez pour l'avenir?
Donc moi, comme vous l'avez dit, je m'appelle Thomas Sibyl, on a fondé la librairie en 2008. Donc je ne suis pas seul, j'ai deux associés avec moi et puis toute une équipe qui travaille au quotidien, soit pour la préparation de commandes ou pour accueillir les lecteurs qui viennent sur place pour choisir leur livre. Donc quand on a ouvert en 2008, c'était au départ un projet qui était très timide, on n'avait pas idée qu'on allait se développer comme ça par la suite. On avait la volonté de pouvoir mettre à disposition donc, des musulmans un ensemble de livres, puisque c'était difficile à l'époque d'accéder aux livres, il fallait se rendre sur Paris, il n'y avait pas en banlieue où l'internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et puis petit à petit, donc on a grossi, on a évolué aussi, on a vu donc les besoins au niveau de la communauté. Si au début les gens étaient essentiellement intéressés par tout ce qui est normatif, c'est-à-dire ce qui concerne le dogme, la jurisprudence, etc., les besoins ont évolué puisque les musulmans ont aussi besoin d'avoir recours à la spiritualité pour faire vivre ce dogme, à l'histoire pour comprendre d'où ils viennent et comment s'inscrire eux aussi dans cette dynamique civilisationnelle. Ce qui fait qu'on a essayé d'élargir au maximum l'offre de manière à donner tous les outils intellectuels aux musulmans et pas qu'aux musulmans, mais essentiellement aux musulmans parce que c'est notre cible de départ, pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, comprendre leur religion et savoir comment être acteurs et témoins dans ce monde. Mais également pour donner aux personnes qui ne sont pas musulmanes donc des livres suffisamment solides pour pouvoir leur expliquer qu'est-ce que l'islam, afin qu'ils comprennent l'islam pas à l'aune des préjugés qu'on peut avoir dans les médias ou chez certains chercheurs plutôt islamophobes, mais au contraire des ressources qui soient sérieuses pour qu'ils puissent vraiment découvrir qu'est-ce que l'islam dans ses fondements, dans ses principes.
Donc justement, Mashallah, quand vous parlez de la jeunesse, malheureusement la lecture n'est plus du tout au cœur de leurs préoccupations. Un résultat évidemment peut-être d'une société de consommation et surtout des réseaux sociaux, du fait que tout maintenant soit davantage lié aux vidéos qu'à la lecture. On oublie aussi souvent la large part finalement de parents qui ne lisent pas, malheureusement. Et est-ce que vous finalement, est-ce que le public que vous voyez défiler à El Beydina corrobore ces analyses ou pas?
En fait, c'est difficile parce que généralement on dit que les gens ne lisent pas. Et moi, comme je travaille dans une librairie, j'ai l'impression que les gens lisent. Donc, des fois, c'est peut-être par l'environnement dans lequel j'ai évolué qui fait que j'ai une analyse peut-être différente. En tout cas, je dirais qu'il y a un véritable retour à la lecture. Et d'ailleurs, on le voit, c'est un peu la mode de se prendre en photo dans une bibliothèque ou d'avoir un livre avec soi. C'est même dans les milieux un peu bobo parisiens, on voit que dans les cafés, maintenant, ils mettent des livres. Donc, il y a quand même une mode autour du livre. Maintenant, lire, c'est une chose. Lire avec méthodologie, avec un objectif, c'est autre chose. Mais de façon générale, je dirais que cette mode, elle a poussé quand même beaucoup de gens à la lecture. Et les gens, quand ils commencent à découvrir le plaisir qu'il y a dans la lecture, les réflexions que ça peut susciter, eh ben, de fil en aiguille, ils se lancent réellement dans la lecture et ils évoluent avec les livres. Et le fait aussi qu'il y a énormément d'éditions qui sortent, de beaucoup de parutions, etc., ça témoigne qu'il y a un véritable attrait pour la lecture. Et donc, que le fait que les gens ne lisent pas, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais ça l'a peut-être été, mais en tout cas, je pense que les gens de plus en plus vont vers la lecture. Après, c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, etc., ça pousse un peu à la paresse intellectuelle. On est plus dans de l'émotion que dans la réflexion. Mais on a aussi maintenant même des imams qui sont visibles dans les réseaux sociaux, qui conseillent de lire tel ou tel livre, qui appellent à prendre conscience de l'importance de la lecture et de la réflexion. Donc je pense qu'on est dans une bonne dynamique et il serait faux de dire que les gens ne lisent pas. Je pense qu'au contraire, on se dirige vers plus de conscience musulmane autour justement du livre et une prise de conscience de l'importance de la lecture dans le parcours, on va dire, spirituel et intellectuel du musulman en France.
D'accord, et justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que la lecture, et vous avez parlé de certains prédicateurs qui peuvent parler de lecture, conseiller des livres, etc., mais d'un point de vue général, global, est-ce que vous pensez que la DAO aujourd'hui, qui s'appuie surtout en réalité sur les rappels qu'on peut visionner, est-ce que vous pensez que la lecture est suffisamment mise en avant? Est-ce que, parce que généralement, par exemple, d'un point de vue personnel, en tant que membre de cette jeunesse, on ne m'a jamais conseillé, par exemple, que sais-je, René Guénon ou d'autres auteurs qui peuvent être très intéressants. Est-ce que vous pensez que c'est mis sur le devant de la scène par les prédicateurs, ce besoin de lire?
Non, il y a un véritable manque. Après, c'est-à-dire les prédicateurs, ils ont un rôle de rappel, c'est-à-dire ils parlent essentiellement de ce qui est normatif, ils appellent à faire ses prières à l'heure, à être bon avec le voisin. Donc des thèmes qui sont très généraux, qui sont bien sur le coup pour se motiver, mais qui ne construisent pas une personnalité et qui n'aident pas la personne à s'accrocher sur le chemin sur du long terme. Donc là, c'est pour ça que cette manière de prêcher, elle est limitée. Et elle a son intérêt pour certaines personnes dans certaines situations, mais sur du long terme, elle n'a pas de véritable fruit. Et au contraire, ce qui va avoir des fruits, c'est ce que la personne va lire, va emmagasiner, va comprendre, parce que ça va lui permettre d'évoluer dans son cheminement. Et là, les prédicateurs ou les imams ont un véritable rôle, c'est-à-dire qu'ils doivent certes donner leur enseignement quotidien, faire leur rappel, etc., mais aussi diriger la jeunesse vers des livres qui vont leur permettre de se construire. Et que ce soit des auteurs comme René Guénon qui vont nous permettre donc, de comprendre le monde dans lequel on vit, le problème de la modernité, pour justement ne pas être happé par cette société qui veut nous couper du divin, etc., ou par Vanek Bennabi qui vont nous pousser à l'introspection, qui vont nous pousser à l'authenticité, mais également l'efficacité. Bref, d'autres, des penseurs qui vont être à côté des savants qui sont plus, on va dire, portés sur l'orthodoxie, mais qui vont justement aider la personne à avoir une religion qui soit pas juste authentique, mais aussi efficace. Et ça, c'est un rôle que les prédicateurs ou les imams n'ont peut-être pas encore bien cerné, mais il faut vraiment qu'ils fassent des conseils de lecture. Et si eux-mêmes, après, il y en a beaucoup qui ont peut-être étudié, donc qui ont des connaissances classiques autour du Coran, des hadiths, etc., mais qui ne sont pas forcément des lecteurs à côté. Donc, du coup, s'ils ne sont pas forcément des lecteurs, si ce n'est de ce qu'ils ont besoin pour leur apprentissage, ils auront du mal par la suite à conseiller. Mais ils peuvent, dans ce cas-là, faire appel à des libraires ou à des personnes qui aiment la lecture, pour donner des conseils de lecture, pour que les jeunes ne soient pas juste tenus, dépendants de l'imam, de ce qu'il va leur donner comme connaissances, qu'ils puissent eux aussi se diriger vers les sources de connaissances qui sont les livres.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous vouliez le fait de lire à une certaine initiative. Et est-ce que c'est finalement ce que vous disiez aussi dans une de vos vidéos intitulée « Réflexion, l'intimité avec la lecture », où vous avez dit la phrase « ça permet d'être constructif, on ne doit pas stagner ». Donc vous vouliez également ça à l'évolution. Et à votre avis, est-ce que justement cette évolution par la lecture faite constamment et avec profondeur, est-ce que vous pensez que c'est à la portée de tout le monde, que tout le monde peut être férié de lecture et tout le monde peut bénéficier de l'entièreté d'un livre?
Bénéficier de l'entièreté d'un livre, pas forcément. Moi, à titre personnel, il y a plein de livres que j'ai lus et j'ai rien compris sur le coup. Et des années plus tard, je suis revenu dessus et je les ai trouvés exceptionnels. Ou des livres que j'ai pas aimés à un moment et puis avec d'autres lectures, en fait, ça m'a expliqué. Enfin, ça m'a permis de comprendre le mécanisme du livre que j'avais pas compris. Et quand je suis revenu dessus, je l'ai trouvé et il m'a aidé dans mon cheminement. Et ensuite, il y a des livres que je pense qu'il faut lire régulièrement, puisque au fur et à mesure qu'on les lit, on découvre toujours d'autres choses, puisqu'on évolue au fur et à mesure de nos lectures. Et en fait, plus on lit, plus notre esprit s'ouvre, notre manière de comprendre le monde change, et donc on est toujours attiré après par un nouveau livre. Et puis quand on va lire un livre, on va découvrir une note de bas de page qui va nous attirer vers un autre livre, et en fait c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Et donc on se construit intellectuellement, spirituellement, on évolue dans notre conception du monde, donc on comprend mieux les idées, et on développe nos propres idées, et après on a même le besoin de les transmettre autour de nous, puisqu'on a finalement amalgamé pas mal d'informations, et on se dit dommage que les gens n'aient pas pu lire ce livre-là qui leur aurait permis de comprendre mieux tel sujet, donc après on a envie aussi d'en échanger avec les gens. Donc tout le monde peut devenir féru de lecture, tout le monde peut comprendre des livres, et puis il ne faut pas désespérer si on n'a pas compris un livre, il faut mettre de côté le temps d'avoir la maturité peut-être pour pouvoir le lire et mieux l'appréhender.
Et par exemple, d'un point de vue personnel, comment est-ce que vous qualifieriez votre relation à la lecture? Est-ce que c'était inné chez vous depuis la jeunesse, ou alors c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit au fur et à mesure de vos recherches?
Alors j'ai toujours aimé lire, mais pas autant que maintenant, c'est-à-dire j'ai toujours été lié aux livres, même dans ma jeunesse, mais j'étais pas forcément assidu à la lecture, mais j'ai toujours aimé lire. Ensuite, quand je me suis converti à l'islam, j'ai énormément lu parce que j'avais soif de connaissances, je voulais comprendre. Et puis, ce qui a été un déclic supplémentaire, c'est quand, on va dire, il y a eu une vague de politique contre l'islam et les musulmans, je me suis dit qu'il ne faut pas rester comme ça et juste rester dans des livres, entre guillemets, tout religieux, mais essayer de comprendre en fait les mécanismes politiques, comprendre en fait cette société, ce monde et les idées qui l'animent, de façon à pouvoir aussi participer au débat public et pas rester toujours en retrait et subir. Et donc là, je me suis mis à lire énormément. Et de ces lectures-là, après, ça m'a on va dire, poussé à encore d'autres lectures. Et depuis, bah, je passe là, quasiment tout mon temps dans la lecture.
D'accord, Inch'Allah. Et justement, par exemple, pour vous, la lecture vous a également conduit à l'écriture. Vous avez notamment vous avez écrit, par exemple, « L'islam au secours de l'homme moderne ». Pour vous, finalement, est-ce que la volonté derrière ce livre, c'était de donner une nouvelle image, par exemple, du musulman? Ou alors, est-ce que c'était pour renseigner les musulmans eux-mêmes davantage sur leur identité? Quelle était la motivation derrière ce livre-là que j'ai lu pour ma part, que j'ai trouvé très intéressant?
En fait, tous les livres que j'ai écrits, il n'y en a aucun que j'avais prévu d'écrire. C'est tous né d'une réaction, en fait. Et celui-ci, en l'occurrence, pour l'histoire, c'était, il me semble, il y a 2 ans. Pendant le ramadan, lorsque je rentrais du boulot, je restais avec ma femme à la cuisine. Et elle écoutait justement des rappels des imams et des prédicateurs connus. Et au bout de quelques jours, j'ai eu l'impression que chaque soir, c'était la même chose. Qu'il n'y avait pas de changement, qu'on entendait toujours le même discours. Pour moi, ce n'étaient pas les mêmes personnes qui parlaient, mais c'était toujours les mêmes thèmes qui revenaient. Et je me suis dit, en fait, le musulman, il a un véritable défaut de vision. Il ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Il est toujours en retrait. Sa façon d'aborder la religion, en fait, c'est une façon qui n'entre pas du tout dans la société. Il ne comprend pas le monde moderne et la manière dont le monde moderne est en train de détruire l'être humain. Et dans l'islam, on a toutes les réponses à donner, justement, à l'humain de manière générale, mais la façon dont on parle de la religion, on a l'impression que c'est halal, haram, sunnah, bid'ah, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est très normatif, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Et donc, j'ai voulu réfléchir, en fait, à ce défaut de vision pour donner, en fait, aux musulmans des clés de réflexion pour qu'ils puissent comprendre ce monde moderne, comment réagir, et puis comment être une force de proposition et pas uniquement une force de réaction.
Et justement, c'est très intéressant quand on parlait de force de réaction. Malheureusement, la communauté musulmane se caractérise par une réaction émotive, vraiment sur le coup, très souvent sur le court terme, dès qu'il va y avoir quelque chose, voilà, un acte islamophobe, ou alors même quand c'est institutionnel. Et à votre avis, vous, justement, ce manque finalement de conscience, et comme vous avez dit, d'ancrage dans la société, d'être conscient de ce que l'on est dans une société moderne, est-ce que ça viendrait vraiment uniquement du manque de lecture? Vous voyez ça d'un point de vue plus large?
Alors, le manque de lecture, c'est clair et net, parce que, en fait, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'espace d'échange, on n'a pas d'espace pour se construire intellectuellement. Lorsqu'on prend des cours, c'est pour apprendre à lire l'arabe, pour apprendre à réciter le tajwid, mais on n'a pas de cours pour être conscient de quel est le message coranique. On n'a pas de cours pour, avec la langue arabe, entrer dans des livres qui vont nous pousser à la réflexion. C'est-à-dire, en fait, ça reste très sommaire. Et du fait qu'on apprend beaucoup de choses en surface, mais pas forcément en profondeur, on ne peut pas développer un esprit critique. Et on ne peut pas être poussé en fait à l'action. Donc, de manière individuelle, à travers la lecture, on peut justement ne plus être dans la réaction émotionnelle, mais dans l'action, parce que la lecture va nous donner les éléments pour penser, et les éléments pour penser vont nous permettre d'agir. Mais il y a aussi on va dire, de manière individuelle, on peut, avec la lecture, se construire intellectuellement et devenir des acteurs. Mais il y a aussi une responsabilité autre, que ce soit à travers les écoles, à travers les mosquées, à travers les imams, les prédicateurs, de donner en fait cette possibilité à ceux qui ne lisent pas de se construire intellectuellement pour devenir des acteurs et pas être juste des gens qui sont en réaction quand on leur tape dessus et puis qui repartent dans leur train-train quotidien dès que c'est fini.
Oui, totalement. Et justement, vous parlez d'être acteur. Est-ce que, on va passer au thème de la dawa après avoir notamment été celui de la jeunesse. Comment est-ce que, tout d'abord, tout simplement, vous définiriez la dawa dans son ensemble?
En fait, aujourd'hui, la dawa, c'est de l'apologétisme. Ça veut dire qu'on fait l'apologie d'une idée que, bien souvent, on répète qu'on n'a pas compris. Et du coup, ça n'a aucun fruit. Et si on parle de... Enfin, la dawa telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle s'adresse à une petite partie de la population. Elle ne s'adresse pas à la population de manière générale. Elle ne présente pas l'islam dans son message essentiel et de manière profonde. Mais l'islam dans des côtés normatifs, halal, haram, faire sa prière à l'heure, etc. Ce sont des choses importantes, c'est pas pour dire que ça n'a pas son importance, mais en fait ça s'inscrit normalement dans un message global qui est complètement occulté. Donc aujourd'hui, dawa c'est apologétisme. Apologétisme, ça convainc celui qui est déjà convaincu, mais ça ne crée pas de pont et de discussion avec les autres. Donc pour le moment, en fait, pour moi c'est une impasse.
Oui, donc pour vous, finalement, la dawa, elle devrait essentiellement se constituer d'un travail de fond, au-delà de simplement, comme vous dites, partager une idée, ou suivant certains aspects seulement d'une idée. Ce qui est très intéressant dans votre posture de da'i, finalement, c'est que justement, vous refusez un petit peu la vision commune qu'on peut avoir de la dawa, et vous sortez du standard de être prédicateur, c'est uniquement faire des prêches, parler à plusieurs personnes, etc. Vous faites donc un travail en fond, en coulisses. Est-ce que vous aussi, vous décririez finalement comme un da'i de l'ombre, en quelque sorte?
Alors moi, je ne qualifie pas du tout comme un dernier. Moi, en fait, ce que j'essaie, c'est de donner des idées, de mettre en avant des idées pour réinscrire l'islam dans une civilisation, dans une, dimension civilisationnelle, parce qu'en fait l'islam ce n'est pas juste une religion telle qu'on l'entend dans le monde occidental ou dans la conception moderne, c'est beaucoup plus que ça. Ça crée des relations sociales entre les hommes, d'ailleurs c'est pour ça que la date du calendrier islamique c'est l'Hijra, c'est le moment où il y a ce lien social entre les Ansar et les gens de la Mecque. Et donc il y a une civilisation qui naît. Et nous, en fait, à partir du moment où on a quitté cette dimension civilisationnelle, ben, on s'est mis en retrait de l'histoire. Et quand on se met en retrait de l'histoire, ben, on subit l'histoire au lieu d'en être acteur. Donc moi, en fait, j'essaye de mettre en avant des idées pour que chacun puisse lire, découvrir les idées, et à travers ces idées, ben, elle aussi participer à cet élan civilisationnel, recréer du lien social entre les musulmans, et n'être pas juste dans une voilà, posture réactionnaire, une posture très normative. Parce que sur le long terme, le normatif, ça ne fonctionne pas. En fait, la personne, elle peut être très rigoureuse pendant quelques années, au bout d'un moment, s'il n'y a pas une spiritualité ou un objectif plus lointain, plus profond qui l'anime, bah, elle va s'essouffler sur le chemin et elle va abandonner. Donc moi, je me considère pas comme un prédicateur, mais comme plutôt une passerelle d'information, quelqu'un qui donne accès à des ressources intellectuelles pour qu'ensuite, eh bien, chacun puisse y réfléchir et participer à... on va dire, au débat d'idées qu'il y a dans la société et au sein de la communauté.
Très bien, je vous remercie. Et donc, pour finir, vous parliez dans une de vos vidéos d'un jeune qui vous avait envoyé une lettre où il disait qu'il ne savait pas en fait, que la lecture était pour lui une épreuve, en quelque sorte, qu'il se forçait à lire. Du coup, quel serait, pour terminer, le conseil concret que vous donneriez à la jeunesse de la communauté musulmane pour s'élargir intellectuellement, enfin, dans le sens justement large du terme, et par là notamment la lecture?
Bah déjà de varier ses lectures, parce que souvent les gens qui se bloquent dans la lecture, c'est parce qu'on leur dit voilà, lis tel livre, il est bien, et puis finalement, comme il n'a pas l'habitude de lire, il n'arrive pas à rentrer dans le livre, ça le déprime un peu, et puis il finit par laisser tomber, et puis c'est plus facile de regarder une vidéo que de prendre le temps de lire. Donc déjà, c'est d'éteindre son téléphone 5 minutes, de commencer par des livres qui soient peut-être petits, et si le livre ne nous passionne pas, de mettre directement de côté pour passer à un autre, et jusqu'à trouver le livre qui va nous parler, et ensuite avancer. Mais surtout, c'est d'avoir une relation quotidienne avec le livre, même si c'est peu. C'est-à-dire, si c'est juste 5 minutes, une page avant de dormir, ça va permettre en fait à la personne de se rendre compte que tiens, elle est capable, que le livre, finalement, c'est très intéressant. Et en élargissant ses lectures, elle ne prendra pas le risque, on va dire, de dire tiens, ce livre-là ne me plaît pas, bah, j'abandonne la lecture. Mais au contraire, elle va finir par trouver le livre qui lui plaît. Une fois qu'elle est dans la dynamique de la lecture, c'est pas tout seul. Parce que le premier pas est difficile, mais ensuite, quand on commence à voyager avec le livre, on n'a plus envie de s'arrêter. Et donc, un livre, on appelle un autre, et après, ça, après on est lancé.
Très bien, Malcorda, aussi pour cet entretien qui a été très intéressant. On espère qu'il saura motiver la jeunesse à répondre à cet appel de la lecture, qui est un élargissement inimaginable, que ce soit au niveau de l'ouverture d'esprit ou simplement de la connaissance de soi-même, des autres, mais aussi de soi-même. Donc, je ne peux que conseiller aux auditeurs d'Éthique Média de se renseigner, Inch'Allah, sur le très large ouvrage qui va être proposé également à la librairie El Bayina. Barakallahu fikoum pour votre écoute de ce 4e épisode, et nous nous retrouvons, Inch'Allah, très bientôt pour le prochain épisode de la série Portrait du mois sur Éthique Média. Assalamu alaikum.